Chers auditeurs, l'interview qui suit est un témoignage anonyme d'une jeune femme qui raconte son parcours dans le monde du travail. L'écoute de ce podcast devrait faire partie du cursus de formation de toute personne travaillant dans la gestion d'entreprise, les ressources humaines ou dans les ORP. On y découvre toute une liste de travers qui font que le monde du travail d'aujourd'hui perd de plus en plus son côté stimulant pour les jeunes et les employés en général. On y découvre aussi, et c'est important, une liste de recettes simples qui permettraient au monde du travail de retrouver sa dignité, de réduire le mal-être ambiant et de renouer avec une ère où épanouissement personnel et d'entreprise vont de pair. Si vous souhaitez contacter la personne interviewée, il suffit de nous envoyer un email à info@radiolibre.ch. Retrouvez les liens qui accompagnent cet épisode en cherchant le numéro 15205 dans l'outil de recherche du site www.radiolibre.ch. Je vous souhaite une bonne écoute.
Vous souhaitez faire un geste engagé? Devenez donateur, contributeur, mécène pour Radio Libre. Toutes les informations sur radiolibre.ch. Merci.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un épisode en direct de Fribourg. Nous rencontrons une jeune personne qui a commencé sa carrière, son parcours professionnel avec beaucoup d'enthousiasme et qui a rencontré des embûches qu'elle va nous expliquer. Alors, on va lui laisser la parole pour nous expliquer un peu son parcours et puis qu'est-ce qui lui est arrivé.
Bonjour. Alors, moi, j'ai commencé par un brevet fédéral en tourisme que j'ai fait à Lausanne. Ensuite, j'ai fait plusieurs stages dans l'hôtellerie en Afrique du Sud. J'ai aussi fait un stage en Espagne. J'ai travaillé dans un fitness de luxe à Lausanne, dans la réception, au back office. J'ai travaillé dans le marketing, dans la promotion. J'ai amélioré mon anglais en partant 3 mois à New York. J'ai fait un bachelor en business international à Genève. Je suis partie aussi en échange au Mexique. En revenant, j'ai fini mon bachelor et je me suis dit que j'allais continuer avec un master qui m'a beaucoup intéressée, que j'ai trouvé au Mexique. Du coup, je suis retournée là-bas. J'ai fini mon master, je l'ai fini du coup en ligne à cause du Covid. J'ai dû rentrer, c'était un peu compliqué. Donc, je savais qu'en rentrant, j'allais être confrontée à certaines difficultés, mais j'avais jamais imaginé que ça allait être à ce point. Donc voilà, moi je suis rentrée parce qu'au Mexique, je continuais à dépenser de l'argent sans avoir de l'argent qui rentrait, vu que c'était aussi compliqué de rencontrer du monde en période de Covid. C'était compliqué justement de faire des nouveaux contacts. Alors j'ai décidé de rentrer et je me suis inscrite au chômage. Sachant que pour le chômage étudiant, il y a toujours 6 mois où vous êtes inscrit, mais vous ne touchez rien en fait. Il faut faire tous les papiers. Ce que j'ai fait, et après j'ai réussi à toucher, normalement c'est 4 mois de chômage étudiant. Mais finalement j'en ai eu 3 de plus, grâce au Covid on va dire. Mais il faut savoir pour les jeunes que le passage au chômage, c'est pas du tout un passage facile. Donc c'est limite rabaissant parce que vous arrivez avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et on vous répète constamment que soit vous visez trop haut, soit il faudrait peut-être faire des stages non payés.
Et qu'est-ce qui se passe pendant 6 mois? Ça veut dire que l'étudiant, la personne doit subvenir elle-même à ses besoins, c'est bien ça, donc avec ses réserves financières?
Oui, c'est tout à fait ça. Moi j'avais eu un crédit qui du coup n'a pas été fait à mon nom parce qu'ensuite les crédits étudiants n'existent pas. Et comme je suis rentrée plus tôt du Mexique et que je n'ai pas utilisé finalement tout cet argent pour mes études, vu qu'on aurait dû partir en voyage, ce qu'on n'a pas fait, j'ai vécu en fait sur mon crédit étudiant pendant 6 mois. C'est vrai que j'ai appelé d'autres aides et rien n'était possible. Donc dans le canton de Fribourg, il n'y a pas d'aide en fait. Enfin, c'est de l'aide à crédit.
D'accord, donc face à cette... c'est un conseiller ou une conseillère chômage. Donc là, c'est là que ça a commencé à devenir un peu plus difficile, alors que jusqu'à présent, tu avais obtenu plutôt facilement des jobs un peu partout et puis que tu avais déjà une expérience derrière toi.
Exactement. Alors, ce que j'ai beaucoup ressenti avec ma conseillère ou... d'autres personnes dans les RH, c'est qu'on ne s'intéresse pas en fait à la personne en face. Il faut rentrer dans des cases, il faut réduire les coûts au maximum, donc faire sortir finalement la personne du chômage le plus vite possible. Ce qui n'est pas une bonne stratégie parce qu'il y a des études qui montrent que finalement de prendre le premier job venu, oui, on ne fait plus partie des statistiques du chômage, mais ils feront peut-être partie des statistiques de problèmes psy, de burn-out. Et c'est des gens voilà, qui retourneront peut-être à un moment au chômage dû à de ne pas avoir pu commencer leur carrière professionnelle d'une manière adéquate.
Donc est-ce qu'ils essayent de vous placer dans des domaines qui ne sont pas les vôtres ou bien c'est plutôt le type de travail qui n'est pas très réjouissant ou quel est le problème en fait? Et puis surtout, comment est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'ils vous trouvent des jobs ou des postulations à faire? Comment ça se passe?
Alors, j'avais minimum 8 postulations à faire par mois. On ne m'a jamais proposé de job pendant que j'étais là-bas, donc j'y suis restée 11 mois au total quand on compte les 6 mois, en plus qu'il y avait à faire au début. On m'a entre guillemets menacée que voilà, s'ils trouvaient quelque chose, il fallait que j'y aille, ou même si c'était pour faire des photocopies dans une entreprise, parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Ce que je trouve dommage, parce que j'aurais pu profiter de ce temps pour améliorer mon allemand. J'ai demandé des cours par rapport à ça, mais en fait, c'est toujours compliqué selon eux. Donc, il ne faut pas avoir plus d'un B1 ou B2 parce que voilà, ils ne payent pas des cours à ces personnes-là. Mais il faut quand même avoir un A2, sinon vous ne pouvez pas faire les cours parce que votre niveau est insuffisant. Et quand je leur ai dit que je parlais très bien allemand en étant plus jeune, je ne sais plus quelle excuse elle m'a trouvée, mais finalement, je n'ai jamais fait ces cours d'allemand et on a continué à me, entre guillemets, menacer d'aller faire des photocopies.
Et au total, ça fait combien de postulations que vous avez faites pendant cette période?
Alors, il y avait quelques postulations que j'ai faites avant d'être au chômage. Il y a celle du chômage et il y a celle d'après, donc j'arrive à plus de 200 postulations.
Parmi ces 200 postulations, est-ce qu'il y a eu des entretiens?
Oui, il y a dû en avoir, je dirais, 15 sur les 200.
Et quelles ont été les expériences que vous avez faites pendant ces entretiens ou bien pendant les processus de sélection par les services RH auxquels vous avez été confrontés ou en contact?
Alors, il y a eu quelquefois le manque d'expérience qu'ils savaient avant de m'inviter à l'entretien parce qu'ils avaient lu mon dossier normalement. J'ai eu le cas de quelqu'un qui cherchait une personne à 20% mais il fallait venir tous les jours, donc... Voilà, c'est pas très réjouissant. J'ai eu une fois un entretien qui devait avoir lieu sur Zoom, personne s'est connecté, je suis restée en face de mon ordi, personne venait. Ah oui, pour un job dans l'event où on s'était bien entendu à l'entretien, mais après il fallait faire des tests d'aptitude, sauf que le logiciel ne fonctionnait pas quand j'essayais de le faire, donc j'ai envoyé un screenshot en disant que voilà, j'avais passé tant de temps et que ça ne fonctionnait pas. J'ai jamais eu de réponse, donc voilà, l'entretien s'est fini comme ça.
Et puis dans les processus de RH, comment vous pouvez expliquer, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de gaspillage aussi comment est-ce qu'on pourrait améliorer en fait la manière en fait d'envoyer ses CV pour les entreprises d'être recrutées? Est-ce que voilà, parce qu'une lettre de motivation ça prend quand même du temps et de l'énergie et de l'implication, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire mieux?
Alors tout à fait, je pense qu'il y a une perte d'énergie déjà pour les candidats mais aussi pour les entreprises. Il y en a qui ne demandent plus forcément la lettre de motivation, on peut envoyer que le CV, mais ceux qui demandent encore la lettre et qui ne répondent jamais, il faudrait savoir s'ils veulent une lettre ou pas. Finalement, s'ils vont pas la lire, il ferait mieux d'avoir une base de CV et ça irait plus vite pour eux et du coup les gens perdent moins de temps. C'est vrai que moi, par rapport à mon expérience, il y a quand même des entreprises que j'ai cataloguées de personnes pas sérieuses. Du fait de ne pas répondre ou des fois j'ai écrit plusieurs fois à la même entreprise avec le même CV, alors une fois ça passe, l'autre fois ça passe pas. Principalement pour ça aussi, j'ai été confrontée à des titres de job où account, junior, manager. Donc le titre fait rêver, mais quand on creuse, c'est des salaires moins bien payés que chez Aldi par exemple. Où on vous demande de venir à 4 entretiens. Donc vous passez le premier, il faut revenir pour le deuxième. Mais finalement, pourquoi mettre autant de pression sur les candidats? Pourquoi eux perdent autant de temps alors qu'ils pourraient peut-être répondre à aussi d'autres postulations? Tout ça pour au final, d'après un article que j'ai lu, les RH, c'est une fois sur deux qui se trompent. Donc en fait, c'est, vous faites pile ou face finalement pour choisir le candidat, c'est la même chose.
Alors on sent qu'il y a un problème dans les, peut-être dans les RH, hein, qu'il y a peut-être des réformes à faire. Et puis maintenant, il y a peut-être d'autres thématiques que tu aimerais aborder par rapport à la marche de la société. Peut-être toi, tu as aussi un état d'esprit entrepreneurial. Comment tu vois la suite pour toi, la suite dans ce monde et puis toutes les choses que tu aimerais faire ou que tu aimerais voir évoluer?
Alors déjà, je pense que les universités, les autres écoles, là je pense plus aux filières de business parce que c'est quelque chose que je connais bien. Il faudrait peut-être être plus transparent parce que c'est vrai que moi je l'ai entendu, plusieurs personnes aussi que je connais. En entrant dans des autres écoles, on vous dit que vous allez peut-être, sûrement toucher 6000 francs par mois en sortant. C'est absolument pas vrai, il y a quelques personnes qui vont y arriver et tant mieux pour elles. Mais ce n'est pas la réalité du marché. La réalité du marché, c'est qu'il y a trop de gens qui sortent d'études, que ces études, finalement, un bachelor, ça ne veut plus dire grand-chose parce que maintenant, il faut avoir un bachelor pour faire des jobs de secrétaire. Et voilà, donc plus de transparence. Et je pense qu'il faudrait aussi revenir à un savoir-faire plus concret. Laisser finalement plus la place aux jeunes à des postes avec plus de responsabilités. Oser en fait les engager et peut-être que ça ne va pas aller. Mais au moins, vous avez essayé, vous avez laissé la chance à quelqu'un et peut-être que vous pourrez être surpris en bien. Parce que de tout mettre dans des cases comme ça, je ne pense pas que ça fait avancer les choses. Et on parle beaucoup dans cette société d'être disruptive. Et le fait d'être disruptive, c'est aussi prendre des risques et essayer des choses nouvelles, pas tout faire par rapport aux cases.
Donc vous avez pas mal voyagé, vous avez pu voir des différences entre les cultures. Est-ce qu'il y a quelque chose en Suisse qui pourrait évoluer pour améliorer ce contexte?
Oui, alors en Suisse, je pense qu'on a peur de se lancer, on a peur de prendre des risques. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps qu'on préférait engager personne qu'engager la mauvaise personne. Après, c'est l'histoire qui est comme ça, donc ça va être dur de changer du jour au lendemain. Mais je pense qu'on peut essayer d'aller vers quelque chose de plus disruptif, comme je vous disais avant.
Donc voilà, maintenant, ça fait quand même plusieurs mois que tu postules, je pense, de manière un peu moins intensive. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et puis comment tu perçois un peu cette situation et puis qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu es face à une postulation et une candidature à faire?
Alors effectivement, j'ai plus postulé quand j'étais dans la période de chômage où on doit suivre quand même un quota. Et après, j'ai développé finalement un dégoût et pour moi, en fait, j'avais plus confiance. Enfin, c'était un peu des guignols, malheureusement, désolée de le dire comme ça. Mais quand on ne vous répond pas, que vous allez à un entretien, qu'on vous regarde dans les yeux, qu'on vous dit qu'on va vous rappeler dans 3-4 jours et que vous attendez 5 semaines, vous avez envoyé des mails, on ne vous a pas rappelé ni répondu à l'email, et c'est encore vous qui devez rappeler et ils sont tout étonnés, comme si « oui, mais j'allais vous rappeler ». Du coup, après tout ça, c'est vrai que moi, j'ai développé un dégoût. Alors maintenant, quand je suis face à une postulation qui m'intéresse vraiment, j'investis du temps pour la lettre. Mais sinon, c'est vrai que quand je vois une offre passer, et c'est pas dans mon domaine, c'est plus un job alimentaire, je me contente d'envoyer un CV parce que je veux plus passer mon temps en fait à faire ça pour des gens qui répondent pas. Vous avez l'impression de faire quelque chose, mais de jamais récolter les fruits de votre semence. Et du coup, alors j'aimerais faire une petite parenthèse. On est dans une société où tout doit aller vite, où les gens veulent pas s'investir. Et pour moi, le stage en entreprise, c'est la même chose, ça équivaut au plan cul quand vous rencontrez quelqu'un. Donc les gens ne veulent pas s'investir, veulent pouvoir jeter quand ça leur plaît plus. Et c'est exactement la même chose. Donc vous prenez un stagiaire, finalement ce sera plus facile à le virer ou à prendre quelqu'un d'autre. Et on en est là, malheureusement. Il y a des entreprises qui tournent aux stagiaires. Il y a des entreprises, des PME qui effectivement ont été très touchées par le Covid. Donc, ils peuvent que fonctionner aux stagiaires, certaines d'entre eux. Mais il y en a d'autres, on sait, ils ont fait du chiffre, peut-être même plus en période de Covid que d'autres années. Et ils fonctionnent bizarrement de la même façon. Donc, vous allez sur LinkedIn et moi, pendant peut-être 9 mois, je voyais le même type d'annonce de ces entreprises qui cherchaient que des stagiaires. Donc, c'est des postes qui tournent aux stagiaires. Oui, donc par rapport à ce que je disais avant, où les gens ne veulent pas s'investir, en général dans la société actuelle, les patrons, les personnes DRH sont des personnes qui fonctionnent aussi comme ça, ils font partie de cette société. Donc comment voulez-vous qu'ils aient une autre approche par rapport à leurs candidats? Ils ne vont pas s'investir non plus. On prend, on jette. Et pour moi, c'est difficile parce que je ne m'identifie pas à cette société-là. Alors, je sais que je suis de loin pas la seule, mais on reste, je pense, une minorité à être plus dans ce monde de partage, de construction et de voir finalement les choses au long terme. Mais même pour le business, ce n'est pas bon d'avoir que des objectifs sur le court terme. C'est beaucoup de turnover. Dans les employés, pour les employés, ce qui engendre des coûts, et vous n'êtes pas du tout dans la stabilisation de votre business et la construction sur le long terme.
Donc ça, c'est un message adressé aux entrepreneurs, enfin aux entreprises, donc de changer un peu d'éthique et de philosophie d'engagement et de peut-être de montrer plus de respect pour les candidats, c'est ça?
Exactement. Et après, moi, je suis convaincue que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, et heureusement, il faut tout dans une société. Et ce que je vois de plus en plus maintenant, c'est des personnes qui ont pu soit racheter des entreprises ou des franchises, mais qui ne se sont pas vraiment posé la question sur comment on gère, comment on lead, comment on donne envie à ses employés de revenir le lendemain. Donc si vous donnez envie à vos employés, vous évitez aussi des coûts de maladie parce que les gens seront contents de venir, de travailler pour vous. Et de donner le meilleur qu'ils ont, parce que beaucoup de personnes, finalement, ne se sentent pas valorisées dans ce qu'ils font et donnent le minimum parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils vont s'investir plus, finalement, pour une compagnie qui ne fait pas grand-chose pour eux ou qui ne remarque pas aussi leurs valeurs. Et un bon entrepreneur ou aussi un bon manager doit pouvoir voir qui est bon à quel domaine et vite switcher. C'est pas parce que vous avez tel papier, tel titre que vous devez rester à ce poste en fait. Peut-être que vous avez un titre pour le marketing digital, mais que vous êtes meilleur à créer des événements. Donc voilà, il faudrait pouvoir vite switcher et mettre ses compétences en fait au sein de l'entreprise sans toujours parler de titre. Après, moi je dis ça, enfin, faut faire attention dans le sens où c'est pas l'entreprise qui doit simplement donner à l'employé. Ça va dans les deux sens, l'employé donne aussi. Mais pour que l'employé donne, il faut aussi qu'il y ait le cadre qui se sente valorisé, qui sente aussi qu'il va pouvoir aller plus haut et développer ce qu'il a sans faire peur ni au manager ni à ses collègues, parce qu'aussi des fois ça peut faire peur aux gens en fait de voir du talent, des gens qui en veulent, donc on préfère qu'il reste à sa place. Et quelqu'un qui a du talent qui reste à sa place, c'est quelqu'un qui va être profondément malheureux. Et alors moi je suis quelqu'un qui veut vraiment donner, je suis pas là pour gratter au maximum ce qu'il y a dans l'entreprise sans donner. Par contre c'est vrai que si je vois que je donne et que j'arrive pas tellement à aller plus haut et à m'épanouir, ça va m'éteindre, donc je préfère partir ou même pas commencer en fait si je vois que c'est comme ça depuis le début.
Donc c'est vraiment un état d'esprit d'entreprise qui t'attire plus que d'autres. Est-ce qu'il y a des secteurs où tu te verrais au mieux évoluer ou dans quel contexte?
Alors sur le long terme, vraiment faire de l'entrepreneuriat. Mais d'abord, je me vois quand même travailler quelques années pour une entreprise. Et c'est vrai que je me vois plus... j'ai pas eu un type d'entreprise particulier, ça va plus être l'ambiance, voir que je vais pouvoir développer ce que j'ai en fait et améliorer certaines choses aussi. Mais sentir que justement, il y a quand même pas mal de marge de manœuvre, pas d'avoir une liste de choses à faire à la fin de la journée et vous cocher voilà, ce que vous avez fait sans finalement apporter quelque chose de nouveau. Et ça, c'est aussi très dommage pour les entreprises parce qu'elles perdent en fait une énergie et une nouvelle façon de voir les choses. Tout le monde est important dans une entreprise, autant les personnes plus anciennes que des jeunes, et je trouve qu'il faudrait pouvoir combiner les deux sans que ça fasse peur aux personnes qui sont là depuis longtemps. Voilà, il y a un jeune qui propose quelque chose de nouveau, mais finalement on n'a jamais fait comme ça, donc ça nous fait peur. Et le jeune, il sait pas tout, enfin, c'est encore c'est un jeune lion, donc il faut aussi savoir apprendre des anciens.
Voilà, chers auditeurs, donc si vous connaissez une entreprise qui cherche des jeunes leaders, des managers de cette trempe-là, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@radiolibre.ch et puis on fera le lien avec cette personne hein, qui souhaite pour l'instant rester anonyme. On te remercie beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu aurais encore peut-être un dernier message à donner aux gens, aux jeunes qui se retrouvent peut-être dans ta situation et puis peut-être voilà, s'adresser à eux aussi?
Oui, alors croyez en vous, lâchez jamais rien, il y aura des périodes plus sombres que d'autres, il y a des périodes où vous allez douter et ça c'est tout à fait normal parce que souvent on entend, voilà, il faut être ferme dans ses idées, il faut, enfin voilà, c'est comme si vous avez pas le droit au doute. Et pour moi, c'est pas vrai. En fait, le doute, ça permet de renforcer, en fait, finalement, vos croyances parce que vous doutez. Et après, vous vous rendez compte que c'est tellement ça que vous voulez que vous êtes encore prêt à rester dans votre galère pour finalement arriver au point final. Donc, voilà, croyez en vous. Et si jamais vous avez besoin de conseils, contactez la radio et moi, je serai très contente d'aider des gens. Parce que j'aurais voulu trouver des personnes qui comprenaient finalement plus mon parcours, ma vision de vie. Ça a été très compliqué pour moi, donc c'était un chemin très seul. Ça reste un chemin seul. Mais si je peux aider voilà, des personnes, je serais contente de le faire, parce que c'est ce que j'aurais voulu trouver.
Effectivement, c'est un poste auquel je te verrais très bien de coacher soit des jeunes ou soit des entreprises aussi pour qu'elles deviennent plus éthiques et puis qu'elles traitent peut-être de manière plus durable et plus humaine leurs candidats. Et en te remerciant beaucoup, en te souhaitant beaucoup de succès, on va te mettre en contact si jamais on a des retours. Et puis merci d'avoir accepté de témoigner et puis de montrer aussi cette facette qui est peu entendue de la vie des jeunes et puis des jeunes professionnels. Merci.
Merci à vous.